Vous écoutez RTL. RTL dimanche soir, le MacPol,
Vincent Parisot.
Ouais, le MacPol, le magazine politique de la rédaction d'RTL avec Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Atterrissage en vue, oui, mais quand et surtout comment? Il y a urgence désormais pour l'exécutif à sortir du grand débat, mais de quelle manière et avec quelles mesures? Après le grand débat, le grand défi d'Emmanuel Macron, nous verrons cela avec vous Olivier dans un instant. On va bien sûr revenir largement sur la prestation au grand jury RTL, Le Figaro, LCI de Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, à la mi-journée sur RTL. Il estime que, au vu de la participation réelle des Français, eh bien, à ses yeux, le grand débat n'est pas un succès. En revanche, ce président s'en est bien servi, vous l'entendrez. Et puis nous débrieferons avec ses intervieweurs. Au menu du MacPol également, la bataille de Paris, après les départs du gouvernement de Benjamin Griveaux et de Mounir Majoubi. Et puis, à moins de deux mois des élections européennes maintenant, on tentera de comprendre le blues des eurodéputés qui se sentent mal aimés.
Le MacPol.
La semaine d'Olivier Mazerolle sur RTL.
Olivier Mazerolle, les jours qui viennent seront donc décisifs pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a urgence, dites-vous, que le grand débat se transforme en proposition concrète.
Eh oui, il y a urgence tout simplement parce que les deux France se radicalisent et parce que Emmanuel Macron y perd de l'autorité. En l'absence d'une conclusion à porter au grand débat, la France qui sympathise avec le mouvement des Gilets jaunes n'a aucune raison de leur retirer son appui et la France qui ne supporte plus ces processions hebdomadaires s'exaspère. Plus le temps passe et plus il sera difficile d'apaiser ces deux France à défaut de les réconcilier. De surcroît, la durée inédite de ce mouvement social, on en sera presque à 5 mois samedi prochain, fait douter de la capacité d'Emmanuel Macron à y mettre fin. Et plus le temps passe, plus les doutes s'accroissent.
Oui, mais est-ce qu'il a les cartes en main, le président? On voit mal quelles mesures il pourrait annoncer qui seraient de nature à convaincre les Gilets jaunes de ne plus descendre dans la rue et de rester chez eux.
Oh bah, il a deux cartes en sa possession. D'abord, il est toujours sans concurrent crédible pour lui disputer le pouvoir. Et les institutions lui garantissent le maintien au pouvoir. Il est donc au centre de l'échiquier, la pièce maîtresse. Pour le reste, il peut compter donner plus de pouvoir, par exemple, aux collectivités territoriales, plus à même de prendre des initiatives sur le terrain, organiser différemment les élections avec de la proportionnelle. Il peut fixer un cap avec une mise à plat de la fiscalité, définir le rôle de l'État et les dépenses qui vont avec, mais ça prendra du temps. La difficulté porte sur les mesures immédiates, attendues et nécessaires. Mais ces mesures sociales ou de pouvoir d'achat seront difficiles à financer sans impôts nouveaux ou sans économies, qui vont aussitôt provoquer du mécontentement. Et sur ce plan, Emmanuel Macron est effectivement le dos au mur.
Donc si je vous comprends bien, Olivier, il risque d'y avoir quand même beaucoup de déceptions au moment des annonces.
Oh, c'est évident. D'ailleurs, dans le camp d'Emmanuel Macron, on paraît désigné à cette fatalité. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, le disait cette semaine, la déception est inévitable, tellement les revendications sont contradictoires. Pour espérer passer le cap sans trop de dommages, Emmanuel Macron a besoin de convaincre qu'il a écouté et qu'il a décidé en toute équité. Il a besoin de retrouver la confiance des Français et ce n'est pas en laissant traîner les choses qu'il y parviendra. Au contraire, plus il tarde, plus il perd de ce crédit qui lui sera pourtant nécessaire s'il ne veut pas passer la suite de son quinquennat à compter les jours qui passent.
Merci Olivier. Évidemment, vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce MacPol qui se poursuit maintenant avec un reportage consacré à la bataille de Paris. Parce que c'est vrai, le scrutin est encore loin, c'est dans un an. Mais il y a du monde sur la ligne de départ. Et puis depuis jeudi, Anne Hidalgo connaît en tout cas un peu plus et un peu mieux ses adversaires. Vous le savez, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi ont quitté le gouvernement pour se lancer officiellement dans la bataille. Encore faut-il remporter...
Et n'oubliez pas Cédric Villani qui était sur RTL et qui est candidat également.
Oui, mais voilà, mais je parlais
dans
pas de...
Dans la même bande,
oui, effectivement.
République en marche.
Donc ça fait du monde, effectivement, pour avoir l'investiture de la République en marche. Vous avez raison de le souligner, Olivier. Il y a l'embarras du choix. Vincent Derosier.
Oui, ils sont déjà très nombreux et pourtant jeudi dernier dans un café Place de la République, on a bien eu l'impression que Benjamin Griveaux était le seul candidat en marche. L'ex-porte-parole du gouvernement promet de porter un projet profondément écolo, il promet de rendre les Parisiens fiers et il donne le sentiment que tout est déjà plié. Les fans sont même là pour l'applaudir.
Bon, on y est. Je vais mettre fin à un suspense absolument intenable. Oui, évidemment oui. Je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris. On va en finir avec la gestion clanique de Paris et on va avoir des Parisiens investis dans leur quartier, dans leurs arrondissements et qui n'ont qu'une boussole, retrouver le plaisir et la fierté d'être parisien.
Et voilà Benjamin Griveaux qui se place comme le recours pour battre Anne Hidalgo et sa gestion clanique de la ville de Paris.
Oui, enfin, d'accord, mais il n'est pas tout seul en interne sur la ligne de départ.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. L'ancien porte-parole du gouvernement a une flopée d'adversaires qui s'imaginent eux aussi maire de Paris. Déjà, il y a son ex-collègue du gouvernement, Mounir Majoubi, qui a eu l'autorisation, lui aussi, de quitter le gouvernement. Il y a le député La République En Marche, Hugues Granson, l'élu municipal Anne Le Breton, et puis le député mathématicien Cédric Villani, qui ironise cette semaine sur RTL sur le soi-disant soutien acquis du chef de l'État à Benjamin Griveaux.
Vous avez peut-être des informations que je n'ai pas pour savoir qui est le candidat d'Emmanuel Macron, mais moi j'ai entendu à l'Élysée que ma candidature, comme les autres, était légitime et je suis sûr que le mouvement aura à cœur de mettre en place des règles claires, transparentes, qui départageront les candidats en toute équité. Écoutez, depuis que j'ai annoncé mes intentions, j'ai entendu des gens me dire « tu vas voir, on va t'arrêter, quelqu'un va t'appeler, tel ou tel ou tel ou tel, ça ne s'est jamais passé. »
Et pour l'instant, les sondages lui donnent raison. Avec 22% des intentions de vote, Benjamin Griveaux devance de 2 points seulement Cédric Villani et Mounir Majoubi. Mais cet écart, vous l'avez compris, ne lui permet pas de tuer le match. Alors certains de ses adversaires accusent Benjamin Griveaux de vouloir court-circuiter le processus de désignation. La Commission nationale d'investiture d'En Marche doit trancher au mois de juin. Mais personne n'est dupe, c'est bien Emmanuel Macron qui aura le dernier mot. En tout cas, les prochaines semaines et prochains mois s'annoncent sanglants. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, bien évidemment, s'en délecte. Son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, s'amuse de la bataille à venir chez En Marche.
C'est la bataille d'En Marche qui est lancée. La campagne des municipales à Paris, elle ne sera pas lancée avant plusieurs mois en réalité. Il y a 2 ministres qui sortent du gouvernement. Si le président avait voulu en adouber l'un plus que l'autre, l'un des deux ne serait pas sorti du gouvernement. Donc une compétition s'engage entre au moins 4, 5, peut-être 6 candidats putatifs pour La République En Marche. Peut-être d'ailleurs qu'une primaire serait le meilleur moyen pour eux, hein, puisque il n'y a pas de favoris.
Oui, et on sent bien que l'entourage d'Anne Hidalgo regarde tout cela d'un œil quand même assez amusé, d'autant que c'est un peu la même incertitude à droite, non ?
Ah, c'est sûr que la compétition interne chez les Républicains est lancée également. Rachida Dati est candidate. Les sondages lui donnent 16%. C'est pour l'instant le meilleur espoir des Républicains. Mais la présidente du groupe LR et indépendant au Conseil de Paris, Florence Berthoux, n'a pas dit son dernier mot. Elle espère imposer une primaire d'abord. Et puis, elle rappelle à Rachida Dati qu'il faut penser plus collectif.
L'élection à la mairie de Paris, ça n'est ni un concours de beauté, ni un tremplin. C'est vrai pour nous tous, hein, je me mets évidemment dans le lot. Il y a rarement, vous savez, un messie, une déesse qui s'impose. D'ailleurs, c'est toujours très dangereux quand on démarre comme ça. Souvent après, on plonge dans les sondages. Il faut convaincre. Il y a du débat, il y a toujours une période qui est un petit peu difficile, et puis après on fait le collectif.
Sauf qu'à droite, la primaire risque d'être abandonnée, faute de temps et surtout d'argent. Chaque candidat va donc tenter de créer la surprise dans les sondages. Anne Hidalgo, elle, peut défendre son bilan tranquillement. Il y a encore quelques mois, elle semblait perdue, empêtrée dans les polémiques Autolib et Vélib. Aujourd'hui, elle fait la course en tête dans les sondages. Et pour Paris, rien n'est encore écrit.
Un reportage signé Vincent Derosier. C'est vrai qu'on a le temps encore, Olivier Mazerolles, mais la situation, et notamment du côté de La République En Marche, ça donne un peu le sentiment d'un panier de crabes aujourd'hui.
Ah ben, Benjamin Griveaux, c'est le symbole parfait de ce qu'est la Startup Nation à la mode Macron. Vous savez que normalement, il aurait dû rester au gouvernement parce qu'il y a le grand débat, donc ça vacille un peu du côté de l'exécutif. Ben non, lui, il a une ambition, c'est la mairie de Paris. Donc, la Startup Nation, c'est quoi ? Eh bien, on acquiert de la notoriété. Voilà. Alors, il l'a acquise en étant au gouvernement. Mais la Startup Nation, ça indique qu'une fois qu'on a acquis quelque chose, il faut rentabiliser ce qu'on a acquis. Donc, il rentabilise sa notoriété au service de son ambition personnelle, qui est la mairie de Paris, CQFD. Voilà ce qu'est la Startup Nation.
C'est parfois très clair, hein, grâce à Olivier Bazerolle. On vous garde avec nous, évidemment, hein, comme chaque dimanche soir, jusqu'à 19h, on va marquer une pause et revenir dans un instant sur le grand jury de Bruno Retailleau. A tout de suite.
RTL dimanche soir, le MacPol.
Vincent Parisot sur RTL.
À présent, retour sur le grand jury RTL de Figaro LCI qui recevait à la mi-journée Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Dans le bras de fer entre les sénateurs et l'exécutif, on a d'ailleurs entendu à la mi-journée sur RTL une certaine volonté de sa part d'arrondir les angles. En revanche, selon lui, le grand débat organisé a été instrumentalisé par Emmanuel Macron et à l'arrivée, selon lui, ce n'est pas un grand succès. Bruno Retailleau, ce matin sur RTL.
Un débat, c'est quand même plus utile que le désordre dans la rue. Mmh. La démocratie, ça commence par le débat. Simplement, je veux remarquer que, pour l'instant, les chiffres sont assez impitoyables. Il y a 1% des Français inscrits sur les listes électorales, en gros, qui ont participé à ce grand débat. Et vous savez que pour les conférences citoyennes, 9 Français qui sont consultés pour y participer refusent parce qu'ils préfèrent vaquer à leur quotidien. Donc je crois que le grand débat, c'était sans doute nécessaire. Maintenant, il va falloir en sortir.
Mais vous dites que ce n'est pas un si grand succès que ça en termes de participation.
Non, non. J'y suis allé moi-même, d'ailleurs, pour voir. Il y a eu des personnes, bien sûr. Donc je ne dis pas qu'il n'y ait pas une utilité. Ce que j'observe quand même, c'est que tout ça s'est transformé très vite en un show présidentiel. Mais voilà, le naturel est revenu au galop. Et la figure du président de la République s'est imposée au centre de tout. Je pensais qu'il s'agissait de redonner aux Français la parole et on a eu la monopolisation de la parole par le président de la République. Après un des tout premiers débats, il y avait eu un tweet. Ça, c'est de la politique. C'est
qui avait tweeté cela ?
Le président de la République. Mmh. Qu'est-ce qu'exprime cette phrase ? C'est cette joie d'avoir participé à une forme de performance, avoir tenu des heures et des heures. Mais ce n'est pas ça, la politique. Ce qu'on demande au président de la République maintenant, c'est de trancher et c'est surtout de mener une politique qui permette à la France de se relever et aux Français de ne pas continuer à s'appauvrir.
Mais vous disiez, il y a quelque temps, qu'il fallait sortir de ce grand débat, de cette crise sociale ou politique par des référendums, donc consulter les Français. C'est un peu contradictoire à ce que vous venez de dire, c'est que vous dites d'un côté, le politique, être élu, c'est prendre ses responsabilités et prendre des décisions et là, vous voulez redonner la parole au peuple. Je ne comprends pas très bien.
Mais les deux. Moi, je pense que la démocratie française, elle est essoufflée aujourd'hui. Et il faut trouver les moyens, justement, d'articuler mieux la démocratie représentative. Je suis parlementaire et j'y tiens beaucoup. Et la démocratie plus directe, parce que depuis longtemps, les Français ont le sentiment qu'on gouverne sans eux. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'à l'issue de ce débat doit être un moment de vérité. Le pire, c'est qu'on amène les Français sur de fausses solutions. Et je pense qu'on a eu une campagne présidentielle, vous y faisiez allusion, qui n'a pas permis véritablement poser les vrais enjeux. En quelque sorte, d'ailleurs, même si M. Macron en a été bénéficiaire hier, il en est peut-être aussi la victime aujourd'hui.
C'est-à-dire les grands enjeux... Est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la crise des Gilets jaunes, c'est un troisième tour de la présidentielle ?
Je ne le dis pas, mais en tout cas, ça doit être l'occasion, le grand débat, de répondre à une double angoisse des Français. C'est le déclassement économique et c'est la dépossession culturelle. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout du bout de l'étatisme. Trop d'impôts, trop de normes, beaucoup trop de contraintes et de bureaucratie. Notre logique distributive, redistributive, est au bout. Et je pense qu'il va falloir mettre une quantité de travail sur la table supérieure parce qu'il faut être direct et assumer un langage de vérité que j'entends bien peu. L'économie française, désormais, ne produit pas suffisamment de richesses pour élever le niveau de vie des Français.
RTL dimanche soir.
Le MacPol.
Et donc après avoir réécouté Bruno Retailleau sur le grand débat qui, vous l'avez compris, n'est à ses yeux pas un succès, on revient sur sa prestation ce matin avec ceux qui l'ont interviewé, Benjamin Sportouche d'RTL,
bonjour.
Christophe Jacques-Cubizine de TF1-LCI, bonjour. Et Alexis Brézé du Figaro.
Bonjour.
Messieurs, bonsoir. Globalement, la prestation de Bruno Retailleau, on a eu le sentiment qu'il voulait jouer collectif.
Alors, il y a les deux choses. Il veut jouer collectif, c'est-à-dire il pense qu'on peut rassembler les droites qui sont éclatées, hein, la droite de Xavier Bertrand, la droite de l'UDI, la droite des Républicains. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il est aussi le meilleur ennemi de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire que à plusieurs reprises, on voit au fond que, je ne sais pas si ça sera son rival pour la présidentielle, parce qu'il a beaucoup misé aussi sur François Xavier Bellamy, dont il a dit le plus grand bien. Il a dit que c'était formidable d'avoir une nouvelle figure qu'incarnait une droite qui correspond aux valeurs de Bruno Retailleau. Bref, tout ça pour dire que quand même, il organise l'opposition à Laurent Wauquiez, une alternative politique, soit avec lui-même, soit peut-être avec François-Xavier Bellamy. En tout cas, il y a à la fois cette volonté de rassembler contre un Wauquiez qui isolerait, au fond, la droite.
Alexis Brézé.
Je pense que Retailleau, il a toujours cette singularité à droite, c'est de s'intéresser vraiment, là, pour le coup, aux idées. Mmh. Il n'a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il lit des livres, et son dernier livre, Refondation, on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est un vrai livre d'idées politiques. Mmh. Donc ça, ça l'intéresse. Et donc, son obsession, ça a toujours été de dire quel est notre corpus idéologique, qu'est-ce qui fait qu'on est de droite et qu'on a des idées à porter aux Français. Donc ça, c'est plutôt une noble ambition. Après, comme tout homme politique, il a envie de défendre sa cause à lui. Et donc, il est partagé toujours entre ces deux aspects-là, ce qui est humain, ce qui est normal. Mmh. Et ce qui, moi, m'a semblé intéressant, Christophe parlait de Bellamy, c'est que peut-être que dans un premier temps, quand il a vu l'émergence de Bellamy, il aurait pu se dire, ou peut-être qu'il se l'est même dit un peu, ah ben, il est exactement sur mon créneau, parce que finalement, la philosophie politique de Bellamy, c'est tout à fait celle de Retailleau. Mais là, il dit pas ça. Il dit au contraire, ben oui, ben c'est très bien, allons-y. Et si au passage, ça peut un petit peu mettre un petit aiguillon dans les fesses de Wauquiez, ben c'est pas plus mal, allons-y.
Oui, parce qu'il a même dit, notre candidat, alors là, effectivement, pas pour les européennes et plus tard, ça pourrait être Wauquiez, mais ça pourrait être Bellamy aussi.
Ouvert. On lui tout dit, il dit pas non. Il dit oui. Ouais. Il dit
tout
pas,
ça peut. Voilà. Ouais. Ouais, il dit tout est ouvert.
Tout est ouvert.
Honnêtement, vous avez Bruno Retailleau sous ses dehors, poli, courtois, hein, jamais un excès de langage. C'est un vrai politique, et il a mal vécu la défaite de François Fillon. Ça a été le dernier des fillonistes. Celui qui était là quand tout allait mal. Celui qui était aux côtés de François Fillon et qui lui disait, vas-y, continue. Et donc, il veut aussi éventuellement une revanche. Et pourquoi pas avec François-Xavier Bellamy, qui peut être un peu, on l'a senti dans son engouement pour ce personnage, pour ce jeune homme, le fils spirituel, mais pas uniquement de lui, de François Fillon. Vous savez, fin de ou la continuité de ce qui n'a pas pu marcher en 2017.
Et la revanche. Ce qui aurait dû marcher si Fillon n'était pas tombé dans toutes ces histoires de costumes absurdes, etc. Lui, il pense que le socle d'idées de Fillon permet de faire élire un président de la République.
Exactement, toujours. Il n'a rien renié de 2017.
Et d'ailleurs, il n'a pas tort. Donc, il se dit maintenant, pourquoi pas moi ?
Et voilà. Pourquoi pas moi ? Parce que quand vous lui dites, il vous dit que.
Ça ne veut pas dire qu'il ne se le dit pas.
Oui, en tout cas, il vous a dit qu'il n'y pensait pas. Vous ne le croyez pas ?
On peut jamais croire un politique quand il dit ça. Simplement, je pense qu'il est assez réaliste aussi, Bruno Retailleau. Je pense qu'il se rend compte qu'il n'est pas en situation et que pour l'instant, il a plutôt intérêt, effectivement, à appuyer quelqu'un comme François-Xavier Bellamy qui va faire du tort à Wauquiez et qui va aussi ancrer la droite des Républicains sur ses valeurs, sur les valeurs qui sont notamment effectivement définies dans le bouquin. Donc, pour l'instant, c'est une tactique à court terme et moyen terme qui pourrait éventuellement le porter. Si Bellamy se dit, la politique, ça m'intéresse pas, etc. Il y aura le créneau politique qui sera prêt pour lui aussi.
Parce que même s'il critique Emmanuel Macron, à droite, il se rend compte quand même qu'il y a une aspiration pour le renouvellement. C'est vrai que d'avoir des nouvelles figures, ils se disent aujourd'hui que c'est le lot de tout parti politique. Il y a un phénomène de zapping dans l'électorat qui fait qu'aujourd'hui, on voit pas reprendre des vieilles gloires. Et c'est pour ça que sur Nicolas Sarkozy, sur le retour, il est quand même très...
Il était gêné.
Il n'y croit pas, même si ça l'embête de voir à côté, côte à côte, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy pour la droite. Mais au final, il se dit, cette incarnation, ça ne sera pas Laurent Wauquiez, parce que ce ne sont pas mes valeurs, parce qu'il n'a pas son côté homme slogan, comme il le dit souvent, et ça peut être un rival de poids pour Emmanuel Macron en 2022.
Eh bien, merci messieurs, Alexis Brézé du Figaro, Christophe Jacubizine, TF1 et CI, et Benjamin Sportouche pour RTL. Merci, à la semaine prochaine.
Merci.
Mais quand même, avec vous, Olivier Mazerolle, on revient sur cette intervention de celui qui est le président du groupe LR au Sénat, parce que vous voulez revenir sur cette passe d'armes, ce bras de fer même, entre le Sénat et l'exécutif.
Oui, parce qu'on est en train de vivre une incongruité. Emmanuel Macron, dans sa campagne présidentielle, avait dit qu'il voulait une démocratie rénovée, et il a toujours défendu l'idée que le Parlement devait avoir un pouvoir de contrôle sur les lois, mais c'est vrai, pas sur l'exécutif. Eh bien, on peut rappeler à Emmanuel Macron que partout, dans les démocraties avancées, le Parlement peut contrôler l'exécutif. C'est notamment le cas aux États-Unis, et d'ailleurs, il ne s'est pas privé d'en bénéficier lorsqu'il s'est rendu devant les parlementaires américains pour se faire applaudir par les sénateurs démocrates qui houspillent Trump, et il est allé dans leur sens, ce qui lui a permis quelques acclamations. Donc, ce qui est possible ailleurs ne serait pas possible dans la démocratie rénovée française, selon Emmanuel Macron, ce serait quand même regrettable.
Petit message signé Olivier Mazerolle à destination de qui vous savez. Merci Olivier. Dans moins de 2 mois, les européennes, scrutin qui ne passionne pas les Français, on le sait, il y a traditionnellement un fort taux d'abstention. Et puis à l'approche de ces élections, les 74 eurodéputés français, quel que soit leur groupe d'ailleurs au Parlement, font le même constat. La France, sa classe politique, ses élites, ses médias ne les connaissent pas et surtout ne les aiment pas. Reportage Marie Mollet.
Oui, les députés de Strasbourg sont unanimes. Le mandat européen est un mandat ingrat. C'est d'abord une plongée dans l'anonymat. Et Alain Lamassoure peut en parler. Il est à la fois ancien ministre et député au Parlement européen depuis près de 20 ans.
Choisir le mandat européen, c'est disparaître de la scène politique. J'ai choisi délibérément le chantier européen depuis 20 ans. Et ce faisant, j'ai prononcé un vœu de chasteté médiatique. Tout ce qui se fait à Bruxelles reste inconnu, méprisé ou vilipendé de Paris.
Et de ce nombrilisme parisien, chaque eurodéputé garde un souvenir. Regardez par exemple les cérémonies officielles, nous dit Dominique Riquet, seul eurodéputé sortant de la liste En Marche.
Vous inaugurez un bâtiment qui a été financé à 40% par l'Europe, mais bon, l'Europe sera la grande absente. Et bien heureux si on invite éventuellement un membre de l'Europe à dire un mot.
Donc il y a, disent-ils, une ignorance totale du fonctionnement de Strasbourg, mais pire encore, une hostilité affichée pour José Beauvais, qui après 10 ans s'apprête à faire ses adieux au Parlement.
Ça arrange beaucoup de monde, souvent au niveau national, de décrier ce qui se passe à Bruxelles. Ça vient souvent du fait que quand on ne veut pas assumer une décision politique, on renvoie ça en disant c'est la faute à Bruxelles. Souvent, l'Europe sert de bouc émissaire aux politiques nationaux.
Donc conséquence de tout cela, en France, le Parlement est souvent vu comme un simple lieu de passage, un outil au service d'un destin national. C'est en tout cas l'avis d'Alain Lamassoure.
Ça se passe en fonction de l'intérêt des dirigeants du parti ou du président du parti. Qui ai-je intérêt à récompenser ou à éloigner en l'envoyant à Bruxelles?
Le plus souvent, le choix est fait en fonction de la manière dont les candidats à la candidature savent cirer les pompes du chef de parti.
Et cette conception est une exception française, assure Dominique Riquet. Prenez les Allemands, par exemple.
Les eurodéputés allemands sont des professionnels qui restent. C'est-à-dire qu'ils sont là pendant au moins 3 mandats. Premier mandat, j'apprends. Deuxième mandat, je fonctionne. Troisième mandat, je transmets. Chez nous, c'est plus aléatoire.
Et pour ces vieux routiers du Parlement, les eurodéputés novices risquent d'avoir du mal à peser face à leurs homologues allemands déjà ancrés sur les postes clés. Et si les Français sont attachés à leur palais Bourbon, ils oublient parfois que l'essentiel se joue à Bruxelles.
Voilà, reportage de Marie Mollet sur le blues des députés. Juste un petit coup d'œil rapide sur l'agenda, Olivier Nasrolle, avec un rendez-vous quand même important pour le président.
Oui, il va éprouver les plaisirs de la poursuite du grand débat à Rennes et puis ensuite en Corse. Il n'est pas dit qu'il y sera très gentiment accueilli.
C'est même probable du contraire, en tout cas. On suivra ça de très près, évidemment, sur RTL. Merci, Olivier Nasrolle. On vous retrouve évidemment dimanche prochain pour un autre MacPol. On va marquer une pause. Il va être 19h. Et ensuite, vous le savez, vous avez rendez-vous avec Autoradio et les dessous de l'écran. À tout de suite.
Le MacPol, RTL, dimanche soir.